Science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement.
L'image est à l'envers.
Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours.
Ah, je me suis perdu là, excusez-moi.
Retournement d'image.
C'est, nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout.
La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs. C'est toujours dans des individus que ça se porte.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, Marie-Catherine Mera et Estelle Cartiofi. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors ce matin, on va s'intéresser à l'exploration en science à travers deux formes d'exploration scientifique très différentes l'une de l'autre. Enfin, peut-être pas si différentes que ça, mais en tout cas pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous Christophe Besse et Nicolas Ingo. Bonjour à tous les deux. Bienvenue à vous.
Bonjour. Bonjour.
Alors Christophe Besse, vous êtes mathématicien ou pour le dire autrement, un explorateur en mathématiques actuellement détaché au CNRS. Vous occupez également une fonction de direction puisque vous dirigez l'Institut CNRS Mathématiques. Nicolas Ngo, vous êtes explorateur et vous avez récemment participé à l'expédition scientifique Deep Climate qui vous a conduit à traverser trois milieux extrêmes dans le cadre de trois missions de 40 jours chacune, en autonomie et sans assistance. Alors pour commencer, Nicolas Ngo, pourriez-vous nous parler de ces trois expéditions et nous dire en quoi ce sont des expéditions scientifiques ?
Absolument. Alors Deep Climate, c'est une expédition qui a été imaginée par un explorateur-chercheur qui s'appelle Christian Clos, qui est à la tête du Human Adaptation Institute et qui a conçu ce projet suite à une série d'expéditions en solitaire dans quatre milieux extrêmes et suite auxquels il a décidé d'emmener 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes dans trois milieux extrêmes qui ont été l'Amazonie, la Laponie et le désert du Nefoud en Arabie Saoudite. Donc trois missions de 40 jours chacune qui ont été monitoré en quelque sorte par plusieurs équipes de recherche, de scientifiques, avant et après chacune des missions, on était en quelque sorte cartographié. Notre cerveau, notre corps et nos émotions étaient analysés sous toutes les coutures, un peu comme des astronautes avant leur mission et après, pour voir justement l'évolution et l'impact de chacun de ces milieux extrêmes sur notre corps, notre psyché et voir comment on s'était adapté. Et donc il y a eu cet élément avant-après et puis tout au long de la mission qui a duré donc 6 mois de décembre à juin-juillet 2023.
Christophe Besse, peut-être que parler de ce que vous explorez, c'est un peu plus difficile que pour Nicolas. Parce que si on imagine assez facilement donc la forêt tropicale, le désert brûlant, une région polaire, pour les maths, ça me semble un petit peu moins évident. Parce que pour la plupart d'entre nous, les non-mathématiciens, les maths, c'est une sorte de pays mystérieux où on parle une langue faite de signes, d'équations, de termes techniques mystérieux aussi. Et je disais par exemple sur le site du CNRS que vous étiez, donc je cite, « spécialiste des équations aux dérivées partielles et d'analyse numérique » et que vous étiez d'abord intéressé à l'étude de schémas numériques pour les équations dispersives de type Schrödinger non linéaire avant d'orienter vos activités de recherche vers de l'élaboration de conditions aux limites pertinentes pour ce type d'équations et leur application en méthode de décomposition de domaines. Alors j'avoue que j'ai rien compris à part les mots spécialiste et intéressé et je suis curieuse. Christophe Besse, est-ce que c'est possible pour vous de parler de vos recherches, c'est-à-dire de vos explorations actuelles ou passées à des non-mathématiciens ?
Eh bien on va essayer. Hein ? Bon, d'abord, je suis vraiment admiratif de ce que Nicolas a pu faire pendant ces différentes expéditions. Donc, l'exploration mathématique, finalement, c'est pas si loin. Vous avez décrit qu'il y avait un pays des mathématiques avec des paysages différents. Alors, pour décrire, moi, mes recherches, les mathématiques, c'est un langage qui permet de décrire le monde. Alors, on essaye de le mettre en équation. Et donc, les termes que vous avez utilisés, c'est un type de description du monde avec des équations dites aux dérivées partielles. Et ces équations, on se pose la question, est-ce qu'elles décrivent vraiment le monde ? Est-ce qu'elles ont vraiment un sens ? Ou est-ce que c'est juste une abstraction des mathématiciennes, des mathématiciens ? Comment on fait pour s'assurer que ça décrit bien le monde ? La première question qu'on a à se poser, c'est est-ce que si j'essaie de résoudre cette équation, je vais avoir une solution ? Donc vous pouvez vous dire, mais comment ça Si on me donne une équation, c'est qu'il y a une solution. Je vous donne un exemple où il n'y aurait pas de solution. Vous rentrez dans une salle, d'accord, et vous voyez au sol une énorme flaque d'eau. Et il y a un seau percé qui pend. Okay, et vous posez la question, quand est-ce que le seau a fini de se vider? Okay, c'est une question hyper simple. Eh bien, il n'y a pas de réponse. Vous ne pouvez pas répondre à cette question parce qu'il n'y avait personne dans la salle pour vous dire à quel moment ça s'est arrêté de se vider. Okay, mais, et pourtant, c'est une question, et il y a une équation, on peut l'écrire, mais on ne sait pas la résoudre. D'accord. Donc ça, c'est la première chose, c'est savoir dire s'il y a une solution à l'équation. Après, on peut essayer de résoudre mathématiquement l'équation, trouver une forme élégante. Des fois, ce n'est pas possible, et donc on passe par des schémas numériques. C'est essayer de résoudre avec un ordinateur. Et là, ça pose de nouvelles questions. C'est comment on fait pour approcher les inconnus et voilà, c'est ce genre de questions que moi j'ai étudiées depuis le début de ma carrière.
Et une question justement que je me pose, quand on est mathématicien, vous par exemple, comment est-ce que vous choisissez les questions sur lesquelles vous allez travailler, celles que vous allez explorer?
Alors, on est Donc tout à l'heure, j'ai essayé d'esquisser le fait que les mathématiques, c'est comme un paysage avec des vallées, des montagnes. Donc nous, on est soit sur une colline, une vallée, une montagne, et on n'est pas loin. Et donc, on va explorer des questions qui sont proches du thème qu'on est en train de regarder. C'est difficile de faire un saut vraiment énorme. En fait, c'est un peu comme l'exploration. Si on veut aller d'un endroit à un autre, il va falloir passer, par un col hyper pentu. Ça va être plus difficile de se dire, ah, tiens, je vais aller explorer plutôt à côté de moi. Et donc, les questions, elles vont toujours rester quand même proches de ce que l'on sait faire. Et après, ce qui est super en recherche, c'est que des fois, ça nous amène à des nouvelles questions et ça nous amène vers d'autres paysages. Et c'est un peu comme ça que l'évolution des questions se font.
Une autre question pour vous, Nicolas Ngo. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a conduit à partir en exploration?
Alors, c'est un projet qui rassemblait et qui conjuguait en quelque sorte l'ensemble de mes centres d'intérêt. D'abord, j'ai eu une première vie en tant qu'enseignant de mathématiques, donc ça me rapproche d'une certaine manière du parcours de Christophe. Et puis aussi de médiateur scientifique à la Cité des sciences et de l'industrie, avant de piloter un département au ministère de la Recherche. Donc, la recherche étant au cœur de cette expédition, ça avait beaucoup de sens pour moi de participer à une expédition qui d'une certaine manière me permettait de m'aventurer sur des territoires absolument incroyables. Je suis passionné depuis longtemps aussi par les récits de voyages, d'aventures, d'expéditions, etc., de la littérature de voyage comme celle de Nicolas Bouvier, qui est un de mes auteurs de chevet. Et du coup, avoir la chance et l'opportunité de conjuguer, de combiner tous ces centres d'intérêt, ça a été quelque chose d'assez fort, existentiellement parlant. Enfin, c'était un projet vraiment qui m'a tenu à cœur pendant plusieurs années. Et donc, effectivement, ça a été une exploration non seulement géographique, et puis aussi une exploration intérieure. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Cette exploration, pour vous, finalement, est-ce qu'elle était d'abord humaine ou elle était aussi scientifique? C'est-à-dire, vous disiez, moi j'ai été observée sous toutes les coutures, avant, après, pendant. Et vous-même, est-ce que vous viviez vos explorations comme des explorations scientifiques?
Ah oui, bien sûr, parce que c'était un petit peu le but du sujet. D'autre part, j'avais aussi une responsabilité d'opérateur scientifique, donc j'étais d'une certaine manière garant de la qualité des données qu'on a ramenées, qui sont en cours d'analyse par les différentes équipes de recherche qui nous ont suivis. Et du coup, ça me donnait une responsabilité aussi d'être particulièrement attentif aux protocoles qu'on menait, notamment sur le terrain, en conditions dégradées, parce que du coup, on n'est pas dans le confort d'un laboratoire. Et nous-mêmes, on est parfois en difficulté. C'est-à-dire quand il fait moins 35 degrés, température réelle, en ressenti, c'est bien moins. Quand il faut enlever un gant pour faire une tâche un peu fine au niveau psychomoteur, c'est tout de suite un challenge et même une forme de souffrance. Donc il y a tout ce challenge qui est difficile à oublier d'une certaine manière, parce que le milieu nous contraint d'une certaine manière à composer avec les difficultés du terrain. Mais peut-être pour revenir à ce que Christophe disait, moi je l'ai vécu effectivement comme une exploration scientifique, mais aussi comme une exploration personnelle, au sens où c'est quelque chose qui, comme les mathématiques me semble-t-il, nécessite de la curiosité, de l'audace et puis du courage aussi d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et de sortir de sa zone de confort, comme on dit régulièrement. Et donc là, pour le coup, j'ai été servi et ça a été assez passionnant à vivre humainement. Et donc, en plus de l'aventure scientifique, il y a eu évidemment une aventure humaine à titre personnel et au niveau aussi du collectif dans lequel on évoluait.
Christophe Besse, Nicolas parle de curiosité, audace, courage, aller vers l'inconnu, que ça change quelque chose sur le plan humain. Est-ce que vous avez cette même impression pour les mathématiques ?
Absolument. En fait, quand on fait de la recherche, ce n'est pas spécifique aux mathématiques. On s'aventure vers l'inconnu. Des fois, c'est un peu effrayant. On ne sait pas comment... Donc, je reprends mon image de paysage. On voit le pic, on sait où il faut aller. Et puis, on se dit, mais c'est loin, c'est haut, comment je vais faire? Quel chemin je vais emprunter? Comment je vais faire pour arriver à l'idée que je veux démontrer? Et des fois, on n'y arrive juste pas, on reste plongé, on fait des erreurs en permanence, on est sur notre feuille de papier, et ça avance pas. Et là, faut pas se décourager. Je pense que c'est assez proche de ce qu'a vécu Nicolas. C'est quelque chose qui va sur le long terme. Il faut pas se décourager. Il faut de la persévérance. Mais après, quand on y arrive, c'est un moment de bonheur intérieur qu'on a envie de partager immédiatement. On va voir ses collègues. On dit ça y est, j'y suis arrivé.
Eureka.
Exactement.
Est-ce que l'environnement dans lequel vous évoluez modifie votre exploration? Vous parliez d'être sur une feuille de papier. Est-ce que des fois vous avez besoin de vous lever, d'aller au tableau, de changer de pièce, d'aller vous balader, voilà, d'explorer le monde pour explorer finalement les solutions que vous recherchez?
Absolument. Et puis aussi aller discuter avec les collègues. On décrit souvent le mathématicien comme enfermé dans sa caverne, qui va avoir son tableau et puis qui va tout faire tout seul. Non, ça, c'est pas vrai du tout. En fait, l'exploration se fait jamais seule. À la fin, on peut publier seul, mais on a besoin de discuter, d'explorer le monde avec d'autres personnes, d'aller voir ce que les autres ont fait, de découvrir leur monde, de s'approprier les chemins qu'ils ont pris, ce qui nous donne des idées aussi sur comment nous, on peut aller d'un endroit A à un endroit B. Oui, on a besoin de se lever, mais plus que ça, on a besoin de partager avec les gens.
Moi, j'ai une question qui me vient en vous écoutant sur la temporalité de tout ça. Alors, on visualise assez bien l'expédition en Amazonie, dans des milieux extrêmes, sur une durée finalement très délimitée, contrainte. Hein, c'est 3 fois 40 jours, c'est ça?
Oui.
Le temps de la science, il est beaucoup plus long. J'imagine qu'il faut dépouiller les données, en faire quelque chose, trouver quelque chose avec ça. Comment on concilie ces deux temporalités, la temporalité de l'expédition avec sa médiatisation, la communication autour, ouais, et puis la temporalité de la science qui est beaucoup plus longue?
Ouais, c'est une merveilleuse question et une merveilleuse occasion d'expliquer justement que la recherche se fait sur le temps long et qu'elle a besoin justement de ce recul et de persévérance pour arriver à des résultats qui soient significatifs. En l'occurrence, cette recherche et cette expédition, elle s'est aussi inscrite dans le temps long, puisqu'en fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc on est parti en 2022-2023. La lettre de candidature et puis tout le processus de sélection, il s'est échelonné entre 2016 et 2018. Enfin, il y a eu déjà 2 ans de sélection avant de faire partie du petit groupe qui a été finalement sélectionné. Puis ensuite, des années de préparation qui ont été un peu perturbées par notamment la Covid, etc. Donc, ces années ont été de préparation à titre personnel. Elles ont été très utiles pour me préparer, mais aussi pour l'équipe des scientifiques, pour élaborer les protocoles scientifiques qu'on allait tester sur le terrain. Et puis, juste après, on était basé à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, où on a notamment passé des IRM. Donc, ce temps en amont nous a permis, en quelque sorte, de préparer scientifiquement les choses. Après, il y a eu le temps, effectivement, pendant, où là, on est très mobilisé par... Bah, l'aventure, le fait de j'allais dire la survie, enfin, même si c'était pas une expérience de survie, mais en tout cas de faire en sorte que notre confort soit le moins altéré possible, encore que confort soit un terme tout à fait exagéré, je pense, dans ces situations.
Voilà.
Et puis il y a tout le temps d'après. Aujourd'hui, ça en fait partie, le fait de partager cette expérience avec le public pour montrer en fait qu'il y a effectivement différentes temporalités entre pouvoir communiquer sur une expérience qui est finalement assez photogénique. On peut montrer des belles images du grand froid, du désert, qui ça ressemble à Dune. Enfin, on a une actualité vraiment. C'est exactement là où ça a été tourné, où on était. Et donc c'est assez envoûtant et c'est facile de le partager. En revanche, la dimension scientifique, elle nécessite un peu plus de temps pour processer ces données et puis publier des articles ensuite. Et donc c'est intéressant aussi de pouvoir jongler sur ces différentes temporalités, à la fois pour parler au grand public, et puis en même temps pour parler à un public de plus spécialiste via des médias plus spécialisés et des revues de recherche en particulier.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Nous sommes sur Recherche en cours avec Nicolas Ngo et Christophe Bess pour parler de l'exploration en sciences. Vous parliez, Christophe Bess, de l'envie de partager. Est-ce que ce partage, vous parvenez à le faire avec vos proches, non mathématiciens, et sinon, n'est-ce pas trop frustrant ?
Avec les proches, c'est notre métier. Nos enfants ont pas forcément, ont souvent un rejet par rapport au métier de leurs parents. Donc, en fait, c'est pas toujours évident. Par contre, avec les amis, ils sont toujours friands de « qu'est-ce que t'as fait ? Où est-ce que t'en es ? À quoi ça va servir ?» Alors ça, c'est la question qui revient toujours en maths. Hein. Les maths, à quoi ça sert ? Donc, mais cette envie de partage, c'est important de le faire auprès des proches. C'est gratifiant. Mais c'est important aussi de partager au-delà de notre cercle familial et d'amis. C'est aussi, ça fait partie de nos missions, de ce que l'on fait en recherche, de l'apporter au grand public, de montrer qu'il peut s'en saisir, même si c'est des questions difficiles. C'est la médiation. Nicolas est un médiateur, il connaît ça très bien. C'est un exercice pas aisé, parce qu'il faut réussir à se mettre au niveau de la personne avec qui on veut passer les informations. Et il faut revenir sur notre propre apprentissage pour pouvoir réussir après à faire passer tout ce que l'on a réussi à découvrir. Et ça, c'est passionnant. Enfin, je trouve ça vraiment une démarche intellectuelle qui est vraiment géniale.
Même question pour vous, Nicolas Ngo. Rapport aux proches, vous partez 3 fois 40 jours, c'est pas anodin, j'imagine. Comment ça se passe ?
Oui, effectivement, c'est pas simple. Ça a été aussi une aventure dans l'aventure. Je pense que les années de préparation en elles-mêmes ont été aussi importantes pour nous projeter dans cette aventure-là, et le fait aussi d'être absent sans aucune possibilité de communiquer dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose sur le terrain, ma compagne ne le sait pas, ne peut pas le savoir. Et réciproquement, s'il arrive quelque chose, s'il lui arrive quelque chose ou s'il arrive quelque chose à ma famille, ben je ne serai pas au courant. Et donc ça, c'est quelque chose aussi auquel je me suis préparé autant que faire se peut, notamment psychologiquement, parce que ça ne s'improvise pas. Et donc il faut accepter aussi ces conditions-là. Donc j'avais ce rêve suffisamment chevillé au corps pour être prêt à m'engager à ce niveau-là. Et c'est une décision que j'ai prise vraiment pas à la légère du tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai considéré de façon... voilà, en pesant le pour et le contre. Et puis, en fait, je me suis rendu compte à quel point, en fait, le fait de le mesurer, de le considérer sérieusement, ça m'avait aussi donné sur le terrain, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas une confiance dans le fait que je suis en expédition depuis longtemps, en fait. J'ai pas attendu le premier jour, je suis parti déjà il y a plusieurs années dans ma tête, et ça fait un moment que je prépare cette chose-là. Et puis ça donne aussi une force considérable, qui est celle de revenir. Et c'est pas si simple. Le retour n'est pas si simple dans ce genre de projet. Et puis aussi, on peut se retrouver dans des passes un peu compliquées, parfois, soit physiquement, soit psychologiquement. Et je trouve que c'est très important d'avoir cette stabilité émotionnelle qui permet de savoir pour quelles raisons on revient dans une vie qui est la nôtre.
Justement, par rapport à ce retour, est-ce que vous n'avez pas parfois, après être revenu de Laponie et d'avoir vu des aurores boréales, d'être allé en Amazonie et de ne pas avoir vu le ciel tellement il y avait de végétation, ce genre de choses, est-ce que vous n'avez pas une impression de décalage et peut-être de ne plus savoir où vous êtes ?
Alors, il est évident, ce sentiment de décalage est non seulement évident, très intense, et persistant. En fait, je m'attendais à, en arrivant sur le terrain, à me retrouver, à me dire mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais dans cette galère, etc. Je me suis jamais dit ça. En revanche, entre chacune des missions, on revenait un mois à Paris, enfin chez nous. Et c'est vrai que au retour de la deuxième mission, qui était la Laponie, après avoir pourtant tellement rêvé d'un tout petit peu de confort, de chaleur, de pouvoir boire chaud, d'une douche, enfin, des choses assez rudimentaires hein, en termes de confort. En fait, pendant douzaine de jours, j'ai vraiment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et parce que j'avais l'impression d'être encore, en fait, en Laponie, et notamment du fait de ces paysages spectaculaires, ces aurores boréales, ces étendues scintillantes complètement blanches à 360 degrés, c'était vraiment magique.
C'est justement, je trouve, une similitude entre vos deux explorations. Le lien entre l'exploration et la beauté. Parce que vous disiez tout à l'heure, Christophe Bess, moi je recherche des solutions élégantes, des équations élégantes. Vous parlez de paysages mathématiques. Et évidemment, Nicolas Ngo, vous revenez, vous avez vu des paysages extraordinaires. Est-ce que l'exploration, c'est aussi un besoin de beauté ?
En mathématiques, la beauté, c'est très subjectif, mais entre spécialistes, on arrive à se dire « Ah, ça, c'est vraiment une belle démonstration. » En fait, c'est trouver le bon chemin, le beau chemin qui va nous permettre d'arriver au but. On peut faire une démonstration avec des chemins très tortueux, en les multiplier, et puis se dire « Bon, je suis arrivé au bout. » Mais se dire « C'est pas ça, c'est pas encore ça, j'ai pas trouvé le beau chemin, le bon chemin. » Et ça, c'est quelque chose qu'on partage, hein. Que ça soit en théorie des nombres, pour reprendre un peu ce qu'Estelle disait tout à l'heure, en mathématiques, il y a plein de paysages, en géométrie, et on va réussir à avoir cette beauté et la sentir. Ce qui est dommage, c'est que pour réussir à arriver à ça, ben, il faut rentrer dans les mathématiques. Mais on peut l'expérimenter assez jeune, hein. Il faut juste... aller explorer tous les paysages pour voir cette beauté. Mais c'est très présent, hein. Si vous interrogez plein de mathématiciennes et mathématiciens, ils vous diront ce sentiment de beauté.
Ça marche aussi avec les informaticiens qui parlent de beauté du ouais, code.
Absolument.
Est-ce que cette recherche de la beauté, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est une recherche, mais on la trouve, on la voit, il y a un émerveillement qui va avec. Est-ce que ça vous aide, tous les deux, Nicolas Ngo, pour, je sais pas, supporter les conditions physiques que difficiles, Christophe Bess, pour avancer dans votre recherche.
Moi, clairement, ça a été une aide fondamentale pour moi, parce qu'en fait, je suis très sensible à la beauté des paysages en particulier qu'on traverse, mais plus qu'à leur beauté esthétique ou visuelle, il y a quelque chose qui est très immersif dans ces paysages où on est envoûté par une bande sonore avec des milliers d'oiseaux en Amazonie, des odeurs, ça, c'est bien sûr des paysages visuels absolument indescriptibles et merveilleux, et puis des sensations sur la peau, des grains de sable qui vous parcourent, c'est vraiment quelque chose qui est très sensuel, j'ai envie de dire, l'exploration. Et la beauté et l'émerveillement en particulier permettent de tenir le coup. Parce que d'une certaine manière, il y a des moments où on est en difficulté. Et si on n'a pas cette capacité à voir la beauté, y compris dans des moments où physiquement c'est dur, Je pense qu'on se complique encore plus la tâche. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi adopter une certaine posture mentale pour essayer de voir la beauté. Alors là, il se trouve qu'elle est évidente dans ce genre d'endroit. Et en quelque sorte, se déconnecter parfois aussi de ces sensations physiques qui peuvent être... parfois compliqué, mais en montagne, c'est un petit peu ça. Les alpinistes, on dit souvent ça, l'élégance d'une voie pour arriver au sommet. Et ça rejoint, je pense, ce que Christophe disait sur l'élégance d'une démonstration. Il y a différentes façons d'arriver au sommet d'une montagne, mais il y en a une qui est plus en escalade aussi, il y a ça, plus élégante que d'autres. Et donc l'émerveillement, oui, joue un rôle clé, je pense, pour et la beauté, pour orienter à la fois l'exploration et peut-être nos vies.
Alors, je dirais pas que c'est que ça qui nous guide. Avant tout, on s'est posé un problème, on essaye de le résoudre. Et c'est ça notre moteur. Mais quand on a fait une démonstration, on n'est pas forcément satisfait de la manière dont on y est arrivé. Et donc là, on va chercher le bon chemin et on va et là, la beauté va apparaître. Mais c'est pas ce qui nous guide dès le début, quoi. Mais par contre. C'est quelque chose d'absolument merveilleux quand ça arrive, quand on arrive à trouver le bon chemin. Mais ce n'est pas le moteur principal.
C'est la cerise sur le gâteau.
C'est la cerise sur le gâteau, exactement.
Et maintenant, une pause musicale avec la chanson Mobilis in Mobile, un titre qui reprend la devise du capitaine Nemo, le héros du roman d'aventure bien connu de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Chant d'amour.
93.1.
Vous êtes sur Allegre FM à l'écoute de Recherche en cours. On reçoit ce matin Christophe Besse et Nicolas Ingo.
Oui Jean-Marc, quittons les sirènes et le fond de la mer et revenons sur Terre pour continuer à explorer notre thème du jour, l'exploration en science. Alors Nicolas Ingo, vous parliez de la sensualité d'une exploration et je me posais la question, Christophe Besse, est-ce qu'en mathématiques aussi il y a de la sensualité? Est-ce que le corps intervient?
Waouh, la bonne question. Alors, le corps, il intervient, mais je pense possiblement en souffrance. On reste assis des heures devant sa feuille, et si on ne bouge pas, là, le corps, il nous le rappelle. Et donc, il faut s'entretenir. Donc, c'est un peu loin de la sensualité, ce que je suis en train de vous raconter. Mais en fait, ça, c'est un peu une expérience. On ne bouge pas. Et là, le corps nous le rappelle, c'est-à-dire l'esprit mobilise toute l'attention pour réussir à se concentrer. Mais au bout d'un moment, y a une espèce de souffrance physique qui arrive, mais souffrance parce que le corps n'a plus eu assez d'oxygénation. Et donc, c'est important pour un scientifique de réussir à faire un équilibre entre la capacité qu'il va mettre à se concentrer et à faire travailler son intellect et à faire bouger son corps. Donc c'est vraiment important quand on est scientifique de pouvoir s'oxygéner, aller voir autre chose. Et c'est aussi souvent à ces moments-là qu'il y a des déclics qui apparaissent. C'est-à-dire on est bloqué sur un truc et puis on sort. On va marcher dans la rue, on va au ciné, et puis d'un seul truc, il y a un truc qui se passe. Le cerveau, il a continué à processer, et d'un seul coup, c'est l'illumination, et là, il faut qu'on rentre et qu'on réécrive.
On quitte le film en plein milieu.
Oui.
Et alors, vous avez toujours un carnet sur vous pour noter l'idée, au cas où vous la perdriez en route, peut-être?
Beaucoup de mes collègues et moi, ouais, on a ça.
D'ailleurs, en parlant du carnet et du crayon, donc Christophe Besse, vous êtes mathématicien. Quel est le matériel que vous avez? Un ordinateur, une tasse de café, ouais. Autre chose?
Alors oui, moi alors, je suis un mathématicien un peu particulier. Parce que vous savez, on dit qu'un mathématicien, c'est une machine à transformer du café en théorème. Et moi, je n'aime pas le café. Alors je suis un mathématicien particulier. Enfin, je ne suis pas frustré de ne pas aimer le café. Alors le matériel... Donc tout à l'heure, quand vous m'avez fait décrire un peu ce que je faisais, je vous ai dit qu'une de mes particularités, c'est de prendre les équations et de les traiter de telle manière qu'après, on puisse les mettre sur un ordinateur. Donc moi, j'ai besoin de papier, j'ai besoin d'un tableau, parce que le tableau, c'est quand même l'objet obligatoire pour un mathématicien. J'ai besoin de livres. Ça, le rapport à la littérature est vraiment important. Dans tous les laboratoires de mathématiques, vous avez une bibliothèque avec des livres très anciens parce que on a besoin de se référer à des choses du passé, mais même lointaines, pour faire avancer.
Et j'ai besoin d'un ordinateur scientifique, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Et j'ai besoin d'un ordinateur, tout simplement pour mettre à l'épreuve ce que j'ai mis sur le papier, et puis aussi évidemment pour rédiger les articles.
Et pourquoi le tableau est si indispensable? Pourquoi une feuille, un crayon, ça ne suffit pas?
Ça permet de bouger, tout simplement. Et puis aussi, le tableau, c'est le meilleur moyen pour échanger avec d'autres personnes. C'est-à-dire, on se met autour d'un tableau et c'est plus facile que sur une feuille de papier où on va être 4 à 5 à écrire sur 20 cm carrés. Et donc, c'est vraiment fondamental. Et c'est vrai qu'on a... On est une des disciplines qui avons conservé cette manière de travailler. Mais c'est notre paillasse.
Tableau noir ou tableau blanc?
Moi, plutôt tableau noir.
Ah oui, naturellement, avec les craies.
Absolument.
Quand vous êtes sur un tableau, et si votre collègue de bureau qui n'est pas spécialiste du même sous-domaine des mathématiques que vous passe, est-ce que, oui ou non, il peut comprendre ce que vous faites?
Alors, on peut comprendre la démarche scientifique. On a tendance à dire que Poincaré, donc le siècle précédent, était le dernier mathématicien à pouvoir comprendre toutes les branches des mathématiques. Donc on va comprendre la démarche, mais on ne va pas forcément connaître le chemin, le paysage du collègue avec qui on va parler. Par contre, on va pouvoir partager comment on explore ces paysages. Et ça va nous donner des pistes pour aller d'un côté ou l'autre pour avancer. Donc on ne va pas forcément comprendre l'intégralité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très présent depuis une vingtaine d'années. On travaille de plus en plus entre collègues de sous-disciplines. Vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle de nos jours. Bah, c'était un domaine des mathématiques où on a commencé à travailler beaucoup avec les statistiques, la science des données. Et maintenant, de plus en plus, on prend d'autres domaines des mathématiques. Et donc, on a besoin des explorateurs de chaque sous-domaine des mathématiques pour avancer maintenant vers un domaine particulier. Ce qui n'était pas trop présent auparavant.
Sur la vulgarisation des mathématiques, Nicolas Ngo profiterait bien de vos multiples vies. Une de vos vies, c'est médiateur scientifique. Est-ce que vous avez une expérience ou un regard sur la médiatisation, la vulgarisation, la médiatisation des mathématiques ?
Ah oui, parce que il se trouve que j'ai fait de la médiation scientifique pendant 4 ans à la Cité des sciences et de l'industrie, où j'ai animé de nombreuses expositions ou conférences ou ateliers de mathématiques. Il y en avait un qui s'appelait par exemple Mathémagie, qui permettait de montrer, de faire des tours de magie grâce aux mathématiques. C'était toujours ça, un carton auprès des écoliers qui arrivaient, parce que du coup on jouait, on était dans une posture en quelque sorte mathémagicien. Et donc le truc qu'on a toujours envie de découvrir quand on regarde un tour de magie reposait sur une astuce mathématique. Et puis, à titre plus personnel, moi, j'ai créé un compte sur l'histoire des nombres qui montrait, en fait, l'histoire de la genèse de ce concept et la façon dont ce concept a circulé à travers les différentes civilisations de l'Inde jusqu'en passant par les rives de la Méditerranée avant d'arriver dans l'Occident chrétien au Moyen-Âge. Les chiffres qu'on dit arabes, en fait, ont fait tout un trajet et toute une circulation qui est assez fascinante et ils ont en quelque sorte été teintés de la culture, des différentes cultures qu'ils ont empruntées à mesure qu'il y avait des échanges commerciaux, intellectuels, le long de différentes routes. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi, ça rebondit sur la spatialisation des idées autour d'un tableau noir, mais de façon plus large dans le monde, le fait de voyager, il me semble que c'est aussi la porte d'entrée vers le fait d'avoir des nouvelles idées et de faire circuler entre différentes cultures des concepts qui sont super profonds. Les nombres en font partie. Et donc, alors je me souviens plus exactement le début de votre question, mais la médiatisation des mathématiques. Ah oui, la médiation des mathématiques, c'est quelque chose qui me tient évidemment très à cœur de par ma formation initiale, de par mon premier métier d'enseignant. Et puis cette dimension de transfert, de partage des connaissances pour essayer d'atteindre l'universel. Et je trouve que les nombres en particulier sont une belle définition de l'universel. Encore qu'il y a des endroits où ils ne sont pas notés de la même manière que chez nous. Et les voyages sont une super occasion aussi pour découvrir ça. Et voilà, mais de manière un peu plus globale, au-delà des seuls nombres qui sont des portes d'entrée assez simples pour comprendre, parce qu'on a l'impression que les mathématiques, c'est ça. Les idées qui sous-tendent les raisonnements des mathématiciens, elles sont aussi des très beaux paysages à explorer et à partager. Et je crois que la curiosité du public est aussi quelque chose sur lequel on peut surfer, si j'ose dire. Parce que bien sûr, quand un professionnel comme Christophe s'adresse à des gens moins spécialistes que lui, il a un niveau de connaissance très supérieur aux gens à qui il s'adresse. Mais en revanche, ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'il peut aussi être en quelque sorte... son imaginaire peut être fertilisé, fécondé par des questions parfois naïves de gens qui ne connaissent pas forcément aussi à fond la théorie qu'il est en train d'expliquer. Et je trouve que ce qu'il y a de beau dans la médiation des sciences, c'est aussi ça, c'est-à-dire on pense souvent que c'est au bénéfice du public, mais en fait c'est aussi réciproquement au bénéfice des chercheurs ou des médiateurs scientifiques qui se livrent à cet exercice.
D'accord, c'est pas juste un sacrifice parce que ça fait partie du boulot d'aller faire de la médiation, il y a aussi un avantage pour le chercheur.
Et de la joie.
C'est quelque chose que vous confirmez, Christophe Bess ?
Absolument. La médiation, tout à l'heure on en a un peu parlé, hein, c'est quelque chose de faire passer ce que l'on sait, c'est vraiment merveilleux. Et alors, je vais profiter de cette question pour féliciter 6 femmes qui ont été lauréates hier du prix Irène Joliot-Curie. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Il me semblait important d'en parler. Et donc, je voulais mettre en avant Olga Paris-Romaskevitch, qui est une mathématicienne qui fait, ça s'appelle des systèmes dynamiques, mais elle fait de la médiation scientifique et elle a eu le prix spécial de l'engagement hier pour ça, pour ce qu'elle fait. Elle a écrit un livre là récemment qui s'appelle Matheuse, les filles, avenir des mathématiques, avec Clémence Pironnet et Claire Marc. Et donc c'est ce qui lui a valu, enfin tout ce qu'elle fait pour la médiation, ce qu'elle apporte. Donc je crois, ça s'appelle Street Math, le concept qu'elle a développé. Elle fait des jeux dans des cours entre des immeubles ou avec des concepts mathématiques, les gens vont dessiner à la craie. Et donc c'est merveilleux ce qui est fait. Et alors je vais profiter pour citer les 5 autres lauréates. Virginie Erlacher qui a eu le prix de la jeune femme scientifique de l'année, qui est aussi mathématicienne, ça fait 2 mathématiciennes sur 6. Puis on a une informaticienne, femme scientifique de l'année, Anne Canto. Et il y a eu deux autres jeunes filles qui sont jeunes femmes scientifiques, Claire Demarche et Laurette Piani. Et enfin, la lauréate de femmes recherche et entreprise, c'est Marie-Léna Radouillou. Et en fait, quand elles sont intervenues, toutes ont fait mention de ce désir et cette volonté de partage et de médiation.
De quelle façon, finalement, votre exploration, vos explorations scientifiques à l'un et à l'autre, modifient votre façon d'être au monde ? Ou changent votre perception du monde ? J'imagine que quand on revient de Laponie, on n'est pas le même. Ça semble assez évident. Mais est-ce que quand on est un mathématicien qui passe comme ça des heures concentrées sur des équations, et puis qu'on s'arrête, et puis qu'on revient dans la vie réelle, est-ce qu'on arrive vraiment à revenir dans la vie réelle, ou est-ce qu'on voit le monde autrement, finalement ?
Je ne sais pas si on voit le monde autrement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les moments où on est actif en recherche, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire le week-end, on ne s'arrêtera pas. Et en fait, je pense que pour nos proches, ce n'est pas forcément facile à vivre. C'est-à-dire que les gens vont nous interroger et en fait, on va répondre, mais sans vraiment être là, quoi. Notre esprit, il est toujours accaparé par ce qu'on est en train de faire. Et je ne suis pas sûr que ça soit toujours très agréable pour nos, nos partenaires.
Mais ça, c'est tant que vous n'avez pas trouvé la solution.
Parce absolument.
Parce qu'une fois que l'exploration est terminée, parce que j'imagine que c'est un peu comme des explorations, on part quelque part, on part dans un problème et puis on le résout. Ouais. Une fois qu'on le résout, ça y est, peut-être que ça se calme un peu, en attendant la prochaine expédition, quoi.
Ouais, la descente, elle est un peu comme ce que Nicolas a expliqué. On a fini, quoi. Et là, on se dit, mais mince, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est un moment pas forcément agréable à vivre. C'est le moment de se remettre en question, puis d'aller explorer autre chose, de prendre de nouveaux livres. Et puis, quand on est enseignant chercheur, de se dire, bon, allez, je vais me consacrer à l'enseignement. Puis ça permet, comme ça, d'avancer. Mais finalement, ça ressemble un peu à ce que Nicolas décrivait tout à l'heure de ses retours d'expédition. Alors, je ne suis pas sûr que ça dure aussi longtemps que ce que lui a vécu, mais psychologiquement, c'est un peu similaire.
Oui, je me reconnais tout à fait dans ce que vous venez de dire, Christophe, et le fait que un projet de ce type-là au long cours, en tout, ça m'a occupé quand même 7 ans, cette affaire-là. Quand on rentre du dernier milieu en particulier, ça fait comme, alors je dirais pas un baby blues, mais il y a quelque chose où on se rend compte que, voilà, il va falloir tourner la page. Alors, j'avais très peur de ce moment-là, et en même temps, il y a aussi une forme de soulagement qui va avec, parce que ça fait de la place pour du nouveau, d'une certaine manière. Mais avant d'en arriver là, c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, mais ça a tellement polarisé ma vie, mes efforts, mon intérêt, qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant? Et donc, il y a une dimension un peu existentielle dans le retour, où il faut se réadapter, en quelque sorte, et c'est peut-être ça, le quatrième milieu, à une vie quotidienne qui, et j'en parlais avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences extrêmes, comme par exemple un séjour en Antarctique. Effectivement, le retour parfois peut retourner dans un supermarché, peut se sortir de crise de panique. Alors j'en étais pas à ce point-là, mais c'est vrai que retrouver la civilisation, le bruit, la circulation, les obligations du quotidien aussi, les factures qui nous attendent, ce genre de choses, et puis recomposer avec une vie et ses obligations. recréer une activité. Moi, j'ai quitté mon poste pour me consacrer à cette aventure-là. Donc, ça nécessite effectivement un peu de résilience pour rebondir après ça. Et donc, voilà, j'en suis là.
Alors, résilience pour rebondir, ça m'évoque finalement la place du risque dans vos activités respectives. Est-ce que vous auriez envie de développer là-dessus? Quelle est la place du risque en mathématiques, risque dans le choix des thématiques, risque de ne pas trouver, risque d'échouer?
Alors, l'échec, c'est quand même notre quotidien quand on fait des mathématiques de manière professionnelle. Et d'ailleurs, ça permet de décomplexer les jeunes, parce que qui vivent les mathématiques comme une forme d'échec, peut-être c'est aussi la faute des adultes, hein, de leur dire « tu vas pas y arriver ». Alors qu'en fait, pour un chercheur, c'est le quotidien. On est confronté à l'échec, et c'est vrai que ça fait peur. On ne sait pas si on va arriver, peut-être que la marche elle est trop haute, peut-être qu'il n'y a pas de chemin pour aller au sommet qu'on décrivait tout à l'heure, et on ne sait pas en fait. Donc on se doute que la question qu'on s'est posée est vraie, mais peut-être qu'il n'y a pas de chemin pour y arriver. Ça s'appelle des conjectures en mathématiques, c'est-à-dire on énonce un théorème, on se dit il est certainement vrai, et il va falloir le démontrer. Mais il y a des conjectures qui résistent depuis des siècles, pour lesquelles on n'arrive pas à apporter de réponse. Et donc, évidemment, il y a un risque, il faut l'accepter. On ne va pas rester bloqué 20 ans dessus. Hein. C'est sûr que au bout d'un temps trop long, on va peut-être changer de sujet. Mais il y a des gens qui vont travailler sur une conjecture toute leur vie. Oui, on est confronté à l'échec, mais les petits bouts qu'on fait, c'est toujours un plaisir d'arriver à avancer étape par étape.
Sur le risque, Nicolas Ngo ?
Oui, alors là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire et ça suppose effectivement une dimension d'acceptation, parce qu'on sait que quand on s'engage sur des projets de ce type-là, le risque est une composante à part entière qu'il faut accepter et même apprendre à composer avec. Et donc, ça s'accompagne
juste
de peur.
Pardon, de quel risque on parle là ? Du risque physique pendant l'expédition ou du risque professionnel dans les choix de s'engager là-dedans ?
Alors les deux. D'abord, effectivement, hein, quand j'ai annoncé à mon équipe, à mes supérieurs, que j'allais partir en expédition et que voilà, ça m'a demandé beaucoup de courage. Donc c'était aussi affronter un risque et j'étais pas encore sur le terrain. Sur le terrain, il y a le risque de en Amazonie, à peu près tout peut vous blesser ou vous tuer. Donc ça suppose une grande vigilance de chaque endroit où on pose les mains ou les pieds, parce qu'il peut y avoir des araignées grandes comme vos mains, des serpents, des choses qui sont sous l'eau, etc. Et donc, on apprend aussi à jongler avec et à danser avec ce risque-là. Et c'est cette peur du risque, elle nous maintient en vie aussi. C'est-à-dire que c'est aussi celle qui nous permet de rester vigilants. Et c'est le moment où on se détend, on se dit « bon, ça va, je suis dans ma zone de confort », que là, ça peut arriver, l'accident ou la catastrophe. Donc en fait, typiquement, en expédition, on a toujours peur, hein, enfin, clairement, et on est toujours attentif le plus possible au risque. Mais j'ai envie de dire que c'est justement quand on fait face à cette zone de risque qu'on sort de notre zone de confort pour rentrer dans notre zone d'apprentissage. Et ça s'accompagne d'un sentiment délicieux, qui est un sentiment d'être pleinement vivant, et un sentiment de développement et de croissance, à la fois de nos compétences, mais aussi intérieurement. On se dit, mais incroyable, je suis capable de faire ça, et je ne le savais pas avant. Donc, j'aime bien cette citation que je la cite souvent, c'est une citation de Jean-Louis Etienne qui dit on ne dépasse pas ses limites, on les découvre. Et en ce sens, il y a quelque chose de cet ordre-là qui, quand on se confronte au risque, quand on fait face à nos peurs, alors il ne s'agit pas non plus d'être irréfléchi et de ne pas avoir de stratégie, etc. Mais quand on y fait face avec une forme de discernement, je crois que ça nous permet de grandir.
Il nous reste une minute et j'aimerais beaucoup conclure sur un moment qui vous a marqué l'un et l'autre, un moment d'exploration et peut-être un message que vous souhaitez faire passer. Donc Christophe Bess, est-ce qu'il y aurait un moment que vous souhaiteriez partager avec nous ? Ou peut-être Nicolas, s'il vous vient plus tôt.
Vas-y Nicolas.
Alors moi j'ai plusieurs beaux moments, très beaux moments qui me viennent, notamment dans le désert du Nefoud, c'est un désert qui est au nord de l'Arabie Saoudite, où il faut s'imaginer un immense paysage rempli de dunes, où un jour il y a eu une gigantesque tempête qui est arrivée comme ça vers nous. Et c'est comme un grand nuage de sable qui fait plusieurs kilomètres de large et de haut, qui fonce vers nous. Et on se sent à la fois tout petit et en même temps extrêmement vivant. Et en même temps, on traverse ça. Et ça peut aussi être une métaphore de certains moments difficiles dans la vie, où parfois on fait face à des tempêtes, mais... Il se trouve que je suis assez convaincu qu'on peut trouver au fond de nous des ressources pour surmonter ces moments.
Voilà, moi j'aurais envie de dire les rencontres avec les gens, avec les collègues qui sont devenus des amis depuis de longue date. Je pense que c'est ça qui est vraiment le plus beau, la plus belle réussite de ma carrière jusqu'à présent.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Ngo et Christophe Bess.
Merci pour cette belle rencontre.
Merci à vous.
Merci.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Marie-Catherine, vous nous parlez aujourd'hui d'explorer, mais sans détruire.
Sans détruire. Alors oui, j'ai eu envie de vous parler des méthodes non-invasives en archéologie, méthodes que j'ai découvertes lors d'un entretien avec Bertrand Doustessier, qui est archéologue à la Maison des Sciences de l'Homme à Clermont-Ferrand, spécialiste de l'Antiquité des 1er au 5e siècle après Jésus-Christ, et qui a un discours un peu atypique et certainement pas consensuel dans sa communauté. On n'a jamais autant fouillé, dit-il, on n'a jamais autant documenté de sites archéologiques, mais on n'a jamais aussi autant consommé de patrimoine archéologique. Fin de citation. Consommer, entendez détruit, car après avoir fouillé, on détruit sans possibilité de revenir en arrière.
Parce que c'est pas le boulot justement de l'archéologie préventive de fouiller sans détruire ?
Alors, en tout cas, de préserver. Effectivement, je rappelle qu'il y a deux grandes branches, hein, pourrait-on dire, de l'archéologie. L'archéologie programmée, qui se focalise sur des sites déjà connus et protégés. Et l'archéologie préventive, donc, qui représente l'essentiel des fouilles entreprises actuellement en France et qui vise à protéger le patrimoine archéologique avant un projet d'aménagement. Et on ne peut pas nier en effet que les lois successives sur l'archéologie préventive au début des années 2000 ont permis de structurer la discipline. Aujourd'hui, la loi prévoit qu'avant tout aménagement, qu'il s'agisse de bâtiments... privé ou public, de routes, de voies ferrées, etc. Le service archéologique de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, eh bien, ordonne, si elle l'estime nécessaire, un diagnostic archéologique. Cela permet aux archéologues de conserver un maximum de données, des sédiments pour des analyses ultérieures, des vestiges mobiliers, etc. Et à l'issue de la fouille, eh bien, l'aménageur bâtit.
Oh, ça fonctionne plutôt bien, donc.
Alors oui, ça a permis de créer de l'emploi et d'enrichir nos connaissances sur le passé des territoires, ça c'est indéniable. Mais comme le souligne cet archéologue clermontois, eh bien on consomme beaucoup de sites. Sites qu'il ne sera plus possible ensuite d'étudier, même quand de nouvelles méthodes d'investigation auront été développées dans 50 ou 100 ans, qui pourraient pourtant nous permettre de mieux comprendre les sociétés, les habitats, les modes de production du passé. Or, il est possible d'explorer le sous-sol de façon moins destructrice en recourant à des méthodes de fouilles non-invasives.
Et comment on fait ça, très concrètement ?
Bon, alors la première de ces méthodes non-invasives, c'est tout simplement la prospection pédestre. Il s'agit de marcher dans des champs, des prés, de scruter le sol à la recherche d'indices, tessons de céramique, fragments de métal, etc. ou de micro-reliefs évocateurs d'une présence humaine passée. Une deuxième approche est la prospection aérienne. On observe le sol depuis les airs, par exemple un terrain ensemencé en blé. S'il se trouve une villa gallo-romaine enfouie, eh bien, dès le mois de mai, juin, dès que le blé va lever et commencer à changer de couleur avec le mûrissement, eh bien, il va y avoir un décalage des pousses de quelques centimètres de hauteur. Et vue d'avion, avec un soleil rasant, eh bien, cela redessine ce qui est en sous-sol. Cette méthode livre de précieuses informations sur la superficie d'un site, sa morphologie, sa chronologie, son importance. A-t-on affaire à un temple, à de simples limites de parcelles, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas une troisième approche ?
Oui, et c'est celle-ci qui est vraiment intéressante, parce que c'est la prospection géophysique, dont l'objectif est de scanner le sol, mais sans l'altérer. Donc elle fait notamment appel à une technologie de télédétection à impulsion laser appelée LIDAR, qui est en fait une sorte de radar. Le LIDAR peut être fixé sur un drone ou un avion et il envoie des millions de faisceaux laser qui balaient très rapidement la surface du haut sol, ce qui permet d'analyser des terrains sous couvert forestier par exemple et surtout d'accéder aux vestiges sans les détruire. En 2018, des milliers de vestiges mayas ont ainsi été découverts dans la jungle au Guatemala.
D'accord, on n'accède pas quand même aux mêmes informations qu'en fouillant.
Alors, c'est vrai, évidemment, hein, puisqu'on ne creuse pas, mais on accède quand même à des informations. Surtout, on n'impacte pas les sites, on peut revenir autant de fois qu'on veut sur le terrain. Grâce à cette détection non-invasive, il est en fait plus facile, par exemple, de décaler un aménagement à venir que si on est déjà dans une démarche où un projet d'aménagement est lancé, avec un diagnostic qui ouvre des tranchées dans le sol et impacte les vestiges. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le premier outil de l'archéologue, c'est l'appel mécanique. Hein. Et puis, cette approche, eh bien, elle serait finalement gagnant-gagnant, parce qu'en connaissant à l'avance l'emplacement de vestiges, eh bien, les aménageurs pourraient s'épargner des fouilles parfois longues et coûteuses. Explorer autrement pour éviter de détruire quand c'est possible, ou comment penser le futur du passé.
Merci beaucoup, Marie-Catherine. On arrive à la fin de ce Recherche en cours. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Christophe Besse et Nicole Engo d'avoir été avec nous ce matin. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans l'émission sur le site web de Recherche en cours. Merci à Enrico Maestro Giovanni, à la réalisation, et Charlotte Poindron. Prochain Recherche en cours, on ne sait pas trop quand, au mois de mars, ça ne fait pas de doute. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bourguerel pour Brésil Alto Astral. À bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.